Loué et exalté soit le Seigneur notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons vraiment tous assez de raisons pour remercier le Seigneur, le remercier pour le grand privilège qu'il a que nous avons de vivre maintenant et d'être en contact avec le dessein du salut de notre Dieu, d'être mis au courant de ce qu'il a, de ce qu'il s'est proposé de faire dans ce dessein, et que pas une unique fois nous avons eu le besoin de savoir quelque chose ou bien de vouloir quelque chose ou bien d'interpréter quelque chose, mais dans la simplicité, nous nous sommes mis à la disposition de Dieu pour qu'il puisse nous parler et nous révéler sa parole et sa volonté. Nous avons entendu de ce cœur, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'élévons. Et quand nous pensons à Marc 7, c'est en vain qu'ils m'adorent parce que ce sont des commandements d'hommes qui se sont faits et qui suivent sans porter un jugement. Le Seigneur a dit, n'est-ce pas, c'est en vain. Toute l'adoration, aussi dans le christianisme, n'atteint pas le trône de Dieu. Si l'adoration n'est pas faite dans la volonté de Dieu et dans l'Esprit de Dieu et selon la parole de Dieu, et cela tel que notre Seigneur l'a ordonné, oui, l'a désiré, ou bien l'a exigé, que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et dans la vérité. Tout le reste est une adoration qui vient des hommes. Elle peut même être sincère, mais elle n'atteint pas le trône de Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, aussi, ces versets bibliques-là ont une grande signification et les autres peuvent porter un jugement sur nous. Mais s'il vous plaît, pas sur nous, mais écoutez vous-même ce que le Seigneur lui-même a dit. Si lui-même il dit que c'est en vain qu'il m'adore, parce que ce sont des commandements d'hommes qu'ils ont fait pour leur tradition, et que c'est vraiment à trouver partout dans chaque dénomination. Et c'est pour cette raison que l'appel à sortir a lieu. L'appel à sortir est exigé pour la préparation de l'église épouse dans ce temps. Et seulement celui qui appartient à l'église épouse prêtera l'oreille à ce que l'époux a à dire maintenant. Il croira cela, il acceptera, il recevra cela et il recevra aussi révélé par Dieu. Nous avons entendu et dans la parole d'introduction, le Seigneur était avec son peuple et dans son amour, il a porté son peuple. Et ensuite, il y a eu toujours de nouveau de la désobéissance et des prophètes ont dû apparaître et ont dû appeler le peuple à revenir à Dieu et à ramener le peuple à Dieu. Dieu peut seulement agir là où il y a l'obéissance. C'est peut-être raison que notre Rédempteur, notre Sauveur, dans son corps de chair, a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et pour nous, il est écrit, en tant que de conduire notre vie, en tant que des enfants de Dieu, obéissants, et cela dans la crainte de Dieu. J'ai écrit, cela est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, dans la dernière lettre circulaire, je l'ai écrit, la désobéissance nous sépare aussi les élus de Dieu. Même les élus n'ont pas le droit de sortir de l'élection ou bien alors de se reposer sur le fait qu'il croit être élu. L'élection nous oblige. L'élection nous oblige d'une manière que nous devons nous soumettre à Dieu et à sa parole. Je me suis écrit quelques écritures, quelques citations de frère Branham ici sur une feuille. Et je me suis aussi agrafé cela. Frère Branham a donné trois différentes citations. La parole n'a pas le droit d'être sorti de son contexte, d'être ordonné, d'être placé autre part. Elle n'a pas le droit d'être interprété. C'est très important. On n'a pas le droit de donner à la parole une interprétation particulière. On n'a pas le droit de sortir la parole de son contexte. Dans la lettre circulaire de décembre, nous l'avons écrit. Les différentes venues du Seigneur, on doit les laisser tous dans leurs différents contextes, là où elles ont leur place. Et on n'a pas le droit de déplacer un événement de son contexte. C'était les trois citations que frère Branham a aussi fait pour lui et aussi pour nous tous, pour notre marche. Ensuite, les cinq autres citations. Il faut que cela ait lieu en son temps. Il faut que cela soit selon sa parole. Il faut que ce soit la personne de son choix. Il faut que cela soit révélé à son prophète. Le prophète, par la parole, doit être confirmé par Dieu. Donc, tout cela s'est accompli dans le ministère de Frère Branham. Il n'y a eu aucun prophète et aucun apôtre qui a été confirmé de cette manière visiblement dans les réunions comme le ministère de Frère Branham. Nous avons aussi entendu ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, et nous avons pu le lire, et ce qui s'est passé dans le ministère du Seigneur lui-même. Mais ce que nous avons expérimenté est au-delà de toute mesure, et aussi dans sa plénitude, dans la plénitude. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez sûrement pas tous comme ça pu être présents et expérimenter, comme par exemple quelqu'un qui était présent dans les réunions de frère Branham, que ce soit ici en Allemagne ou bien alors aux États-Unis ou bien alors en Suisse, et a pu lui-même voir et entendre en direct. Mais c'était des millions. Bien, frère Branham disait une fois que il a des contacts sur au moins 10 millions de personnes. Mais de ces millions de personnes et de ces évangélistes et de ces grands hommes, il y en a très peu qui sont restés, qui n'ont pas seulement considéré frère Branham comme un évangéliste ou bien un homme de Dieu particulier, mais en tant que le prophète promis pour notre temps. Et je voudrais que vous puissiez vous noter les différents versets bibliques, ou bien alors que vous puissiez les lire. Matthieu 11, verset 9 jusqu'au verset 15. Matthieu 11, verset 9 jusqu'au verset 15. Où notre Seigneur parle du ministère de Jean-Baptiste et rend témoignage. Matthieu 11, et ici, ce sont les versets du verset 9 au verset 15. Et je vais vous dire aussi pourquoi est-ce que je le fais ici. Si le Seigneur fait mention de la promesse, tous nous savons qu'il l'annonce, la venue d'Élie. Et au prochain verset, il dit que Élie est déjà venu et qu'ils ont fait avec lui ce qu'ils voulaient. Ensuite, nous lisons un verset l'un après l'autre. On va de Matthieu 11, et ça, c'est le point que je voudrais ici relever et insister. Pas seulement prendre un verset, mais aller au prochain et encore au prochain, qui traite le même sujet. Tout ce que Dieu a laissé écrire, que ce soit dans les 40 paraboles ou bien alors dans la parole prophétique, tout a été exprimé en parabole et tout est caché. Il faut que cela soit révélé. Si le Seigneur avait parlé clairement, sans parabole, tous les prédicateurs et tous les évangélistes l'auraient su. Mais il a parlé en parabole pour pouvoir le révéler à ceux qui sont prêts à aussi croire et à le suivre. C'est ainsi que nous voyons ici dans Matthieu, le chapitre 11, à partir du verset 10. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face. » Mais ça, ce n'est pas Malachie 4, mais Malachie 5, comme dans la plupart des versets des Bibles. Dans notre Bible, c'est Malachie 3, verset 23, mais dans d'autres, c'est Malachie 4. Mais ça, c'est Malachie 3, verset 1, la première partie. Je vous dis ici dans Matthieu 11. Et le Seigneur a dit, le Seigneur n'a pas ici dit comment il est. Il n'a pas dit comme ça ici, il est Élie. Hein? Parce que ici, c'était seulement la première partie de la promesse de Malachie qui s'accomplissait. Comme dans Luc chapitre 1, verset 16 à 17. Il avait le devoir. Donc, Jean-Baptiste, il avait le devoir de ramener le cœur de ceux qui étaient dans la voie des pères, dans la foi des pères, de ramener leur cœur à la foi de ceux qui croyaient au Seigneur à l'époque, donc au cœur des enfants. Et c'est ce qu'il a fait. Jean-Baptiste avait le devoir de faire le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament et de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mais ici, au point suivant, il est écrit « Plus qu'un prophète ». Matthieu 11, verset 9. « Qu'êtes-vous donc allé voir ?» Un prophète, oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. Mais pas plus qu'un homme. Les prophètes, et lisons cela ici tout de suite, au verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et ensuite, suit les autres explications. Je vous donne les autres versets. Matthieu 17, très connu de nous tous, à partir du verset 11. Matthieu 17, verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Oui, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et nous voyons comment est-ce que notre Seigneur devait confirmer le futur et aussi confirmer le passé. Pour dire cela clairement, le problème avec Israël consistait à, autrefois et consiste encore aujourd'hui à ce que ils ont attendu la venue d'Élie. même Mahomet, qui avait parlé avec les Juifs à Yathrib. Ils ont dit, nous attendons Élie qui doit venir avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel en tant que dernier prophète. Ils ont attendu la venue d'Élie jusqu'à ce que donc cet homme-là apparaisse et dise, « Mais je suis celui que vous attendez. » Et quand ils ne l'ont pas fait, quand les Juifs l'ont pas accepté de l'accepter, il a laissé tuer tous les 800, mais il les a chassés, il les a maltraités, 800 personnes, et c'était donc la fin des églises, donc des synagogues juives à Yathrib. Pourquoi? Et je le dis pour une raison bien précise. Celui qui lit les livres juifs, que ce soit Mishra ou bien Gamara ou bien le Talmud, tous ces livres où des docteurs de la loi ont exprimé leurs opinions, tel que cela a eu lieu dans le judaïsme, parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour de la visitation de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas eu part à ce que Dieu leur avait promis et accomplissait dans leur temps, parmi eux, ils ont été condamnés à marcher dans leur propre chemin jusqu'à que leur temps arriverait. Et celui qui était déjà en Israël, il sait très exactement qu'encore aujourd'hui, lors de chaque fête du Pessah, il y a une chaise spéciale et il y a une coupe spéciale remplie de vin qui est servie au cas où Élie viendrait lors de la fête pour qu'il puisse avoir de la place pour s'asseoir et avoir part à la fête avec eux. Mais pour Israël, il y a deux prophètes qui ont été promis et pas un. Voici Zacharie chapitre 4. À côté du chandelier d'or, il y a deux oliviers qui se tiennent. Et ces deux oliviers-là sont deux prophètes. Et nous le retrouvons dans Apocalypse, le chapitre 11. Mais ici est la grâce inexprimable que Dieu nous a accordée de dispenser correctement la parole de Dieu, de mettre chaque chose à sa place. Aussi sur la montagne de transfiguration, il y avait Élie et Moïse. Mais la question avait été posée, pourquoi est-ce que les scribes et pharisiens disent que Élie doit premièrement venir? Je mentionne seulement cela pour finir avec cela, et particulièrement dans Luc 7 au verset 27 et aussi dans l'évangile de Jean, à partir du verset 19. Alors qu'on a posé la question à Jean, qui es-tu? Il a donné la réponse claire. Dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 19, où l'homme de Dieu rend témoignage de ça. Et au verset 21, dans l'évangile de Jean, nous lisons, et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Et il lui dit, « Alors, qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ?» Alors, le verset 23, « Moi, dis-je, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, à planisser le chemin de du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. » Chaque homme de Dieu savait sa position dans le royaume de Dieu, et particulièrement Quand il s'agit du dessein du salut, alors ce n'est pas seulement une assemblée locale qui est touchée, mais le corps du Seigneur, l'Église dans le monde entier est donc concerné. Et je voudrais dans très rapidement, avec plusieurs versets bibliques considérés et montrer le chemin de Dieu avec l'Église et bien sûr aussi avec Israël. Dans Ésaïe 44, vous savez, le prophète Ésaïe a vraiment écrit tout ce qui concerne le conseil du salut de Dieu. Dans ces chapitres, tout est décrit, tout ce que nous trouvons écrit dans ces 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tout le dessein du salut de notre Dieu est résumé dans Ésaïe, tout le dessein salut de Dieu jusqu'à les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Tout est décrit dans Ésaïe parce que cela lui a été révélé. Ici, dans Ésaïe 44, nous lisons au verset 26, Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Les serviteurs de Dieu n'ont pas exprimé leurs propres opinions. Ils ont parlé au nom du Seigneur et ils ont prêché le destin du salut de notre Dieu. Et la même chose aussi concerne notre temps. Dans Ésaïe 46, nous lisons au verset 10, Ésaïe 46, verset 10, «
Ich habe von Anfang an den Ausgang kundgetan.
J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. » Et j'exécuterai toute ma volonté. Et j'exécute toute ma volonté. Les serviteurs de Dieu prêchent le dessein du salut de notre Dieu. Mais c'est Dieu qui l'exécute. C'est Dieu qui veille sur sa parole pour accomplir tout ce qu'il a promis. Non, ce n'est pas notre souci, mais cela est dans la responsabilité de Dieu. Ésaïe 48, ici nous avons les versets 3 et 7.
Die früheren Weissagungen habe ich vor dem verkündet.
Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche, Ésaïe 48, verset 3. Et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies.
Ich sie erfüllt, sodass sie eingetroffen sind.
L'annonce, la prédiction a dû durer, mais ensuite, quand le temps est accompli, alors subitement s'accomplit ce que le Seigneur a annoncé à l'avance par la bouche de ses serviteurs et par la bouche des prophètes. Le verset 6 maintenant, tu entends, considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. À quoi est-ce que vous pensez maintenant? À l'ouverture des sceaux. Nous pensons à ce que le livre scellé a été ouvert et que le Seigneur a accordé un mandat direct et que frère Branham devait revenir à Jeffersonville de l'Arizona au Diana pour que l'ouverture des sceaux ait lieu. Et chaque soir du 17 mars jusqu'au 24 mars, il a parlé de cela. Nous sommes simplement reconnaissants à Dieu de ce que des choses ont été révélées, des choses que nous n'avions pas sues en commençant avec la chute de l'homme. Tous les fondements bibliques sur la divinité, sur le baptême d'eau, fondamentalement sur tous les sujets, elles ont été placées sur le chandelier. Et de manière assez claire, nous sommes reconnaissants de ce que nous avons pu être informés de ces choses. Imaginez-vous, et il faut que cela soit aussi ainsi, sans porter un jugement, quand nous pensons à ce que dans toutes les églises, aussi dans toutes les églises libres, où il y a 50 ans d'ici, l'Esprit de Dieu agissait encore. Nos bien-aimés frères de Herba se sont fait l'effort de voir ce qui se passe avec cette église appelée Elin à Hambourg ou après la guerre. Tous ceux qui craignaient Dieu ont été rassemblés par cette église. Là, il y avait, c'était pas d'être membre qui était important, mais c'était de venir à la prière. Ils ont prié pendant toute la nuit et Dieu a ouvert le ciel. Le Saint-Esprit s'est déversé. C'était des jours et des temps de bénédiction. Oui. Et qu'est-ce que cela a servi à tous les autres? Maintenant, les frères m'ont dit que dans cette église-là, il y a des femmes qui arrivent en pantalon, au baptême, etc., etc. Oui. Même le baptême de cet esprit ne sert à rien si par le Saint-Esprit on n'est pas conduit dans toute la vérité. C'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants à Dieu aussi pour l'appel à sortir, pour la préparation. Nous étions tous dans les différentes assemblées, églises, et le Seigneur nous a appelés à sortir. Nous a mis à part pour que nous puissions le suivre. Ce qui m'a retenu dans le prophète Ésaïe particulièrement, c'est le chapitre 53. Ce n'était pas seulement la prophétie qui concerne ici le dessein du salut de notre Dieu dans ce chapitre, mais dans ce chapitre, il vient à parler du noyau. Il a décrit notre Seigneur en tant que l'agneau de Dieu sur son chemin vers la croix à Golgotha, qui a porté toutes nos transgressions, toutes nos fautes, et est allé à la croix. Du chapitre, lisons, chapitre 53, chapitre 52, verset 13, chapitre 52, verset 13, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Chapitre 53, à partir du verset 4, «
Jedoch unsere Krankheiten waren es,
chapitre 53, maintenant le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Verset 5.
Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, pour tes péchés et pour mes péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Et que tout le peuple dise Amen.
Amen.
Amen. Le salut, la délivrance, la guérison, la pleine rédemption, le plein salut nous a été accordé. Maintenant, au verset 6, il nous est dit, et cela au passé, nous étions tous errants comme des brebis. Pas nous errants, mais nous étions tous errants, pas au présent, mais au passé. C'était comme ça avec Israël et c'était comme ça avec nous. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Loué et exalté soit notre Seigneur, qui a dû suivre ce chemin difficile vers Golgotha pour nous racheter. Le verset 10 dans Isaïe
53.
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Mais cela a lieu encore aujourd'hui, car dans la semence divine qui a apparu, lui le premier fils entre plusieurs frères, et nous sommes nés de la même parole, du même esprit. Et ça, on peut à chaque fois le dire. La vie qui était en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est revenue dans le troupeau racheté par le sang. Tous ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau portent la vie éternelle de Dieu lui-même. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12. Celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est pour cette raison que nous voulons en ces jours, justement, dire en insistant. Pas la connaissance, mais le savoir sur la parole prophétique. Nous sommes reconnaissants pour cela. Pas la vue d'ensemble et l'introduction dans ces choses que Dieu nous a accordées sur son dessein du salut par sa grâce. Mais la relation personnelle avec Dieu, l'expérience du salut personnellement, l'expérience de la conversion, du régénérement, de la nouvelle naissance et d'être rempli du Saint-Esprit personnellement, pour que nous soyons apportés en accord total avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Verset 11. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de. Donc, verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance de mon serviteur, le verset 11 d'Ésaïe 53. Verset 11. Justifiera beaucoup d'hommes en se chargeant de leurs iniquités. Ô toi, agneau de Dieu, loué et exalté sois-tu. Tu as suivi ce chemin difficile vers Golgotha. Tu nous as rachetés. Et Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Encore ce verset du chapitre 53. Le dernier verset. La dernière partie, ou bien alors entièrement. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai. Ça part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté, pendant qu'il portait les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Une description merveilleuse de la rédemption qui a eu lieu. Parole prophétique ici, parole prophétique là, et au milieu du livre, nous voyons le noyau. Nous sommes reconnaissants pour toutes les paroles de Dieu. Nous voulons aller dans le Nouveau Testament et lire quelques versets bibliques pour voir comment est-ce que Dieu veut les choses nous concernant et quelles sont les promesses qu'il a données et aussi qu'il a
accomplies.
Dans Colossiens, le premier chapitre, nous avons quelque chose qui nous est montré par l'homme de Dieu, mandaté par le Seigneur. Colossiens, le premier chapitre, verset 10. «
Damit ihr so, wie es des Herrn würdig ist,
pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Colossiens 1, verset 10. Ça sont des paroles importantes. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et si nous pensons à Romains chapitre 12, ici nous pensons à tout un nombre de versets bibliques, nous pensons à Enoch qui avait le bon plaisir de Dieu et qui fut pris de la terre et qui ne fut plus trouvé. Et nous aussi, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons être trouvés dans le bon plaisir de Dieu. Ce qui s'est accompli lors du baptême de notre Seigneur dans Matthieu 3, celui-ci est mon bien-aimé fils en qui j'ai trouvé toute mon affection. Ou bien alors Matthieu 17, sur la montagne de Transfiguration, celui-ci est mon bien-aimé fils en qui j'ai trouvé toute mon affection. Ici, d'abord, c'est le baptême du Seigneur et ensuite sa transfiguration sur la montagne de Transfiguration. Ici est le point, bien-aimés frères et sœurs. Dans le baptême, nous confirmons que nous avons accepté notre Rédempteur, notre Sauveur. Mais dans le baptême, cet Esprit, c'est Dieu, lui, qui nous confirme qu'il nous a agréés. Et nous avons besoin réellement des deux. Et vous allez le voir. Le Seigneur nous va faire en sorte que nous soyons poussés à bout jusqu'à que nous ayons des prières où l'Esprit de Dieu pourra se déverser, jusqu'à que nous soyons poussés à bout et nous soyons en détresse et que nous ne soyons pas comme ça à prendre les choses à la légère et que le Seigneur pourra vraiment confirmer sa parole. Mais il faut que cela soit nous, il faut que cela soit dit, parce que ça c'est Matthieu 25. Ça ce n'est pas ce que frère Frank ou bien ce que frère Branham ou bien ce que frère Paul disent, mais ça c'est ce que le Seigneur lui-même a dit. Les lampes pour tous et tous les avaient. C'est-à-dire la révélation de la parole. Hein, tous l'avaient. Mais elles ont manqué d'huile. Et c'est là la différence. Et dans toute la Bible, l'huile fait parler du Saint-Esprit. Tous les ustensiles dans le temple ont été oints d'huile. Tout ce qui était en service était consacré par l'onction, par l'huile, que ce soit les sacrificateurs et les ustensiles. En Aaron, on le voit de la meilleure manière. Il ne fut pas seulement oint, mais on a complètement renversé la corne d'huile sur sa tête pour que l'onction coule jusqu'à même dans ses jambes, dans ses pieds. D'une telle onction, on a besoin d'une telle onction, de la tête aux pieds, d'être loin de la tête aux pieds. Car nous aussi, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Hein? Aaron était sacrificateur dans l'Ancien Testament. Et nous sommes une race élue, une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Et il y a de grandes choses qui nous attendent encore. Et Dieu va achever l'œuvre qu'il a commencée. Ici, nous avons encore la mention de l'œuvre accomplie de la rédemption dans Colossiens chapitre 1. Acceptez-le, bien, mes frères et sœurs. Remerciez Dieu pour cela. C'est une réalité divine. Colossiens 1, verset 14.
Die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Sagt Amen.
Dites Amen. Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Le pardon des péchés est un don de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. S'il vous plaît, pas dans l'incrédulité, dans le doute, pas dire je n'ai pas encore expérimenté cela. J'ai ici fait des erreurs et c'est cela. Dieu ne demande pas cela. Crois, toi, au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta maison, vous serez sauvés.
Vers 15, er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes.
À partir du verset 15, il est le Fils est l'image du Dieu invisible. Image, et il est l'empreinte, il est l'image, il est la forme visible du Dieu invisible. Il est son empreinte, déjà dans l'Ancien Testament, ce qui était le Seigneur. Et le Fils dans le Nouveau Testament. Car le premier de toute la création, car en lui, au verset 16, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Dignité, tout a été créé par lui. Il dit la fin du verset 16. Verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Maintenant, je suis la partie pour nous, la partie pour l'Église. Verset
18.
Il est la tête, le chef du corps de l'Église. Et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ensuite, suit quelque chose de très important. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Et nous possédons en lui cette plénitude. C'est écrit au verset 22.
Hat er euch in seinem Fleisches Leibe durch seinen Tod
pour vous faire paraître devant lui saint,
um euch heilig, untadelig, unanklagbar,
sans défaut et sans reproche.
Vor ihm darzustellen. Die Erlösung,
la rédemption inclut tout.
Die Herausrufung,
l'appel à sortir,
die Absonderung,
la séparation,
die Zubereitung und auch
et aussi, oui, la purification de tout ce qui ne peut pas se tenir devant Dieu, tel que hier, de 2 Corinthiens, nous l'avons considéré. Pas seulement être mis à part, mais être purifié et sanctifié de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et sa parole. Qu'il ne soit pas seulement dit que ton nom soit sanctifié, mais que par nous, ce nom puisse être sanctifié. Que ce ne soit pas seulement que nous prions que ta volonté soit faite, mais que nous puissions faire réellement dans notre vie de tous les jours sa volonté ici sur cette terre. Que réellement nous soyons liés dans le dessein du salut de notre Dieu dans notre temps. Pas seulement écouter, mais expérimenter ces choses. Et vous allez voir, et nous allons l'expérimenter tous, que le psaume 110 s'accomplira. Psaume 110, verset 1, de David, un psaume. Vous savez, de tous les 150 psaumes, c'est David qu'on a écrit 73. Tous les autres psaumes viennent d'Asaph et d'autres personnes. Psalm 110, un psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse à tes ennemis, de tes ennemis, ton marchepied. Allons dans le Nouveau Testament. Il y a tout un nombre de versets bibliques là-dessus. Allons dans Hébreu. Dans Hébreu, le deuxième chapitre, ici nous sommes informés de ce que tout cela n'est pas encore accompli, mais que son accomplissement viendra. Hébreu chapitre 2, nous lisons ici à partir du verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Rien laissé. Tout lui est soumis. Tout est vaincu. La puissance de l'adversaire est placée sous son marchepied. Ensuite, la deuxième partie, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que nous pouvons déjà voir, nous voyons déjà que le rétablissement de toutes choses n'est pas encore là tel que nous l'attendons et tel qu'il a été promis. Nous voyons aussi ces différentes choses. Mais cela ne nous dérange pas. Nous savons que les promesses de Dieu demeurent valables. Elles ne s'ébranlent jamais, car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa parole. Alors, si dans les Saintes Écritures, nous parlons de la plus de l'avant et de l'arrière saison, même dans Jacques, chapitre 5, verset 7, et dans Zacharie et dans Joël, dans les versets de l'Ancien Testament, Zacharie, chapitre 10 aussi, alors nous savons que la pluie de l'arrière saison aussi s'accomplira, parce que Dieu l'a promis ainsi dans sa parole. Faisons comme Abraham, qui nous est donné comme modèle. Il n'a pas regardé au visible, mais il a regardé à l'invisible, comme s'il le voyait. Et il est notre modèle. N'oubliez pas, les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement par nous. Et ça, c'est une parole qui, tous les jours, devrait être devant nos yeux. De 2 Corinthiens, ce merveilleux premier chapitre dans 2 Corinthiens, si nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 et 20, jusqu'au verset 22, car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, dans le verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. C'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu fait dans l'Église aura lieu par nous. Nous qui sommes son corps, formons son corps. Cela devra avoir lieu par nous. Il n'y a pas une autre possibilité. Dieu ne peut pas, quelque part comme ça, sous le ciel, sur terre ici, manifester l'accomplissement de son dessein et accomplir ces choses, si ce n'est qu'il trouve des hommes qui croient ce qu'il a promis, qui se mettent de son côté et qui se laissent apporter en accord avec sa parole. Et pour le reste, il prendra soin lui-même. Verset 20. Ici, il s'agit de l'onction ici au verset 21 dans 2 Corinthiens 1. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Et pas seulement ça, mais aussi le sceau, verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Pas seulement une onction, mais un scellement avec le Saint-Esprit, pour que le Seigneur puisse habiter en nous par sa grâce. Il y a beaucoup de versets que nous puissions, que nous pourrons encore lire. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Ici, il est écrit au verset 11. Romains 8, verset 11. Et quand le Geist dessen, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. Donc, pas seulement l'onction, mais j'habiterai en eux, je marcherai parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ainsi s'accomplit ce qui est écrit dans Galates, chapitre 5, concernant les fruits de l'Esprit qui, en nous, par sa grâce, doivent être manifestés. Chaque arbre est reconnu par son fruit. Galates, chapitre 5, verset 22.
Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude.
Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. C'est une description de ceux qui sont en Christ, de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils manifestent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, ils manifestent la bienveillance, la foi, ils manifestent la douceur, la maîtrise de soi. Et maintenant ici, nous demandons à notre Seigneur et à notre Dieu de tout notre cœur qu'il puisse nous accorder cela par le déversement, par l'onction, par le scellement du Saint-Esprit en nous tous. Vous avez lu peut-être que auparavant, les œuvres de la chair sont décrites. Lisons cela. Tout le registre est ici par lequel, donc, par lesquels nous étions séparés de Dieu. Tout ce qui nous a séparés de Dieu, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les prises de parti, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui. Donc, nous avons ici la description du vieil homme. Nous avons ici la description du nouvel homme. Et nous voyons que Dieu reçoit ce qui lui revient de plein droit en nous. Je crois que vous pouvez mettre la main sur votre cœur et dire que ces choses-là qui décrivent le vieil homme dans notre vie n'existent plus. Nous ne pouvons pas seulement chanter tout nouveau, mais il a réellement rendu toutes choses nouvelles. Car il dit, regardez, je rends toutes choses nouvelles. Nous sommes devenus de nouvelles personnes. Les choses anciennes, ces choses-là sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et encore Éphésiens, chapitre 4, qui est connu aussi de nous tous, parle ici des ministères que Dieu a établis dans l'Église, les ministères qui doivent être rétablis et qui vont aussi être rétablis. Ici, à partir du verset 11, dans Éphésiens, chapitre 4, il est écrit, et il a donné les uns comme apôtre, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Que tous les frères dans le ministère puissent trouver leur place dans le royaume de Dieu et dans l'église du Seigneur par sa grâce. Car tous les ministères sont nécessaires pour qu'ils puissent accomplir ce qui est écrit à partir du verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'Église et de l'édification du corps de Christ. Pas seulement un ministère, mais tous les ministères seront utilisés par Dieu pour l'édification du corps de Christ. Tous nous le savons, que si par exemple j'entreprends un voyage, je suis ici dans une ville 2 jours, dans un pays 2-3 jours, ou bien 1 jour, ici une réunion, 2 réunions, 3 réunions, mais ce sont les frères là, dans les différents pays là, les frères qui sont dans ces villes là, ce sont ces frères là que Dieu utilise pour servir l'église dans ce pays, dans cette ville, pour se mettre à la disposition du Seigneur pour servir son peuple. Ce qui est important, c'est que nous puissions ensemble servir le Seigneur, pas être les uns contre les autres ou bien critiquer et parler mal, mais ensemble, dans une harmonie divine, prêcher la parole de Dieu. Ensuite, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous, nous qui sommes ici aujourd'hui, et tous ceux qui écoutent en ligne, tous, nous puissions parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous pouvez croire cela? Car Dieu, pour Dieu, tout est possible. Auprès de Dieu, tout est possible. Sa parole est vraie et il agit par son esprit, par son Saint-Esprit. Verset 14. Car nous ne devons pas demeurer. Donc ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Des hommes qui tombent dans des faux enseignements et des faux doctrines sont emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ils ne viennent pas ici pour écouter la parole. Hein. Non. Ils sont emportés par tout vent de doctrine comme les vagues de la mer, c'est écrit aussi dans Jacques chapitre 1 et ici aussi dans Éphésiens 4, n'est-ce pas? Flottant et emporté par tout vent de doctrine. Maintenant, adressé à ceux qui restent dans la parole de la vérité, verset 15 et 16, c'est à eux que c'est adressé. Mais nous devons, professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Dans l'amour divin, l'amour divin pour la parole, pour notre Seigneur et Rédempteur, l'amour divin les uns pour les autres, c'est ainsi que nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ, en celui en qui nous sommes déjà, croître. Nous voyons ici ce que c'est que la perfection. Chaque enfant qui naît est parfait. Rien ne lui manque, n'est-ce pas? Mais ensuite, suit la croissance. Ensuite, suit la croissance. Chaque enfant de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, sont entièrement là. Mais ensuite suit la croissance spirituelle en tout égard en celui qui est le chef Christ, jusqu'à parvenir à la tâche parfaite. Au verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, pas seulement par un seul membre ou bien deux membres ou bien trois membres, mais il est écrit ici, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, pas seulement quelques membres, mais tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ici, nous avons un résumé de ce que Dieu fait maintenant. Pas seulement un message et un messager, mais lié à cela, l'appel à sortir, la préparation, le rétablissement, tous ceux qui appartiennent au Seigneur, qui vraiment appartiennent au corps de Jésus-Christ. Et seulement celui qui appartient au corps de Jésus-Christ respectera aussi les... Non, reconnaîtra aussi les ministères. Il ne dira pas, mais qu'est-ce qu'il veut dire celui-là? Mais qu'est-ce qu'il pense? Non, Dieu a établi dans l'Église différents ministères. Et celui qui appartient à l'Église respecte les ministères que Dieu a établis. Celui qui ne respecte pas les ministères ne peut pas appartenir à l'Église. C'est un édifice de chaque membre du corps de Jésus-Christ individuellement. Et c'est ainsi qu'il est lié aussi au ministère que Dieu a établi dans l'Église pour justement, comme il est écrit ici, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'Église. Ça pourrait être par exemple frère Schmitt ou bien frère Rousse ou bien ça pourrait être moi. Est-ce que l'un de nous, est-ce que nous pouvons faire quelque chose ou bien produire quelque chose au nom du Seigneur? Si ce n'est que tous vous êtes présents, l'union dans l'Église du Seigneur est nécessaire pour que le réveil, pour que le rétablissement de toutes choses, pour que Dieu puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Je crois que nous avons compris cela, que les ministères sont établis par Dieu et que ce n'est pas seulement que la promesse est accomplie, que Dieu a envoyé un prophète, mais par son ministère, tout devait être rétabli dans l'état primitif. Et à cela appartient aussi Éphésiens chapitre 4 et encore les trois versets du chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Aucun enfant de Dieu va commencer à se quereller, à commencer une dispute. Non, la dispute ne viendra jamais de lui. Nous sommes conduits par un esprit de paix et nous procurons la paix. Comme c'est écrit cela, le serment de la montagne. Encore au verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi, qu'un seul baptême, qu'un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Alléluia. On pourrait continuer à lire. Glorieux. Glorieux et encore une fois glorieux. Et la glorieuse est la sainte parole de Dieu. Et tous les différents contextes dans chaque domaine, nous avons ici cela représenté dans la Bible. L'introduction dans la parfaite volonté de Dieu, dans le dessein du salut de notre Dieu, dans ce qu'il fait maintenant. Voilà ce que Dieu fait concrètement maintenant. Et laissez-moi vous dire cela encore un instant. C'est un grand privilège de vivre maintenant. Mais de la même manière, c'est aussi important, important et grand. La responsabilité est grande. Donc la responsabilité que nous avons, que nous portons devant Dieu, est importante. Pas seulement nous, en tant que serviteurs dans le ministère, mais nous tous, nous portons une grande responsabilité devant Dieu. De croire ce que les Écritures disent, déclarent et tel que cela est déclaré dans les Écritures. De ne rien ajouter et de ne rien retrancher non plus et de ne rien interpréter et de ne pas passer d'un enseignement à un autre, d'une doctrine, à une, de ne pas être emporté par toute votre doctrine, mais de demeurer dans la parole de la vérité, d'être affermé et d'être loin du Saint-Esprit sur le fondement des apôtres et des prophètes sur lesquels Dieu nous a placés. S'il vous plaît, soyez dans la foi et soyez plein de confiance. Celui qui a commencé son œuvre, il l'achèvera aussi. Il l'a déjà dit qu'il aura une église sans tache, sans rides et irréprochable. Il a déjà dit et son épouse s'est préparée. Il a déjà tout dit. Tout est déjà dit à l'avance. Il a dit à l'avance que l'épouse s'est préparée. Donc elle sera prête. Tout déjà est écrit dans l'Apocalypse et tout ça. Donc, avec tous ceux qui sont appelés avec nous à sortir dans le monde entier et qui appartiennent à l'Église épouse, cela nous concerne aussi dans ce temps. Sa parole n'est pas revenue sans effet, mais qu'elle elle a produit l'effet et elle produit l'effet pour lequel elle est envoyée dans le monde entier en tous ceux qui croient et qui ont accepté ses paroles dans la foi. Cela s'accomplira ce que en janvier 81 j'ai vu. Ce sera un grand troupeau. Un grand troupeau. Oui. Des gens qui croient maintenant et qui seront préparés pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ peuvent et ne seront pas déçus. Quand Dieu, si Dieu n'accomplit pas sa parole en ceux qui croient, en qui est-ce qu'il accomplira alors? Non, dans ce temps, nous avons prêté l'oreille à l'appel de l'époux. Et nous avons reçu le dessein du salut de notre Dieu, le message de la fin des temps biblique, le dernier message, le dernier appel, nous l'avons entendu et de tout notre cœur, nous l'avons reçu et nous croyons ce que Dieu a promis et ce qu'il fait dans le présent. Nous avons une pleine part à cela. Lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'adoration. On pourrait dire encore beaucoup de choses. Nous vivons dans les jours de la Bible. Nous vivons à la fin du temps de la grâce. Et nous nous réjouissons de ce que le Seigneur n'est pas passé comme ça, mais nous a parlé à tous. Et que dans la foi, nous avons pu recevoir sa parole. À lui, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a particulièrement révélé la parole prophétique et la parole de l'enseignement, à lui, notre Rédempteur. Soit la louange maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Nous nous levons pour la prière. et que tous nous puissions maintenant examiner nos cœurs. Bien, frères et sœurs, si vous avez un cantique et que vous voudriez maintenant venir, avez-vous un cantique? Alors venez, s'il vous plaît. Nous sommes tous dans la prière devant la face du Seigneur. Et nous nous examinons et nous sommes remplis de reconnaissance ici. Nous sommes dans la foi, dans la préparation, dans la certitude. Dieu a fait de grandes choses à nous. Nous l'adorons.
Утром, когда встает рассвет, Боже, тебе пою. За благодать твою ко мне и за любовь твою.
Слава, Господь, я тебе пою за благодать твою.
Силы дай мне всегда прославлять тебя. В радости дай воспеть тебе, скорби не унывать. И от твоей святой любви людям всем рассказать.
Славу тебе я, Господь, пою за благодать твою. Силы дай мне всегда прославлять тебя.
Жизни моей тебя хвалить, цель будет пусть моя, чтоб чудеса ты мог творить в сердце моем всегда.
Славу тебе я, Господь, пою за благодать твою.
Силы дай мне всегда прославлять тебя. Когда приходит день к концу, звезды с небес блестят, к Богу с молитвой прихожу, чтобы опять сказать:
милости Божией полон ты, милости и любви, и хочу я всегда прославлять тебя. Милости Божией полон ты, милости Божией и любви, и хочу я всегда прославлять тебя.
Et maintenant en allemand, donnez-nous l'accomplissement, sentons ce cœur. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous gardons encore les têtes courbées et nous voulons maintenant prier les uns pour les autres. Peut-être pour ceux qui, pour qui une telle prédication est nouvelle et pour qui certaines choses ont été aussi nouvelles.
Im Glauben auf und an, es wird euch geoffenbart werden.
Acceptez-le dans la foi et cela vous sera révélé, particulièrement ceux qui viennent de différentes directions, églises et confessions, bien églises libres, de différentes cultures. Dieu le Seigneur a qu'une seule église, c'est l'église des premiers-nés. Et ils lui appartiennent. Tous les membres de son corps sont, donc lui appartiennent. Et il est notre chef, notre tête. Et si nous prions, et avant que nous le fassions, je voudrais demander que tous ceux qui ont une requête particulière, je voudrais demander peut-être que Dieu se révèle à eux, leur révèle sa parole, leur révèle sa volonté, leur accorde la foi, le courage par sa grâce. Que nous ne puissions pas regarder à nous, mais que nous puissions regarder au Seigneur, notre Dieu. Car la victoire est à lui, la puissance est à lui, et il achèvera puissamment son œuvre. Et tous ses ennemis seront placés sous son marche-pied. Dans 1 Corinthiens 15, il est écrit qu'il doit régner comme roi et il régnera comme roi. Et la victoire de notre Dieu sera manifestée. Bien-aimés frères, au nom du Seigneur, je peux vous assurer qu'ensemble, nous appartenons au troupeau qui forme l'Église épouse, qui maintenant prête l'oreille à la voix de l'époux. Nous allons être ceux-là qui vont demander à Dieu la puissance pour échapper à tout ce qui viendra sur la surface de la terre. Nous allons appartenir à ceux qui prieront pour demander à Dieu de leur accorder la puissance d'en haut et d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Comme aussi dans Colossiens, il est écrit, et vous possédez en lui toute cette plénitude. Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Éphésiens 4. Éphésiens 3, verset 19. Cette plénitude nous appartient. Acceptez-la, recevez-la dans la foi. Éphésiens 3, verset 19. Nous voulons aussi, dans la foi, prier. Vous pouvez lever vos mains si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Nous allons ensemble prier. Et je demande que le frère Schmitt vienne et prie. Et nous allons ensuite appeler les deux frères pour qu'ils puissent aussi venir et prier avec nous, les deux Joseph. Mais priez s'il vous plaît tous, remerciez tous, invoquez tous, et tous, nous tous qui avons écouté la parole de Dieu, nous voulons en cet endroit remercier Dieu avec tous dans le monde entier, que c'est encore le temps de la grâce et que le Seigneur parle encore avec nous et qu'il reçoit ce qui lui revient de plein droit et son but. Nous te disons merci. Alléluia. En Christ Jésus, nous te remercions. Nous pouvons aussi aujourd'hui dire comme autrefois, les disciples à Emmaüs, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors que tu parles avec nous? Tu as parlé avec nous par ta parole. Et nous te remercions de ce que tu nous montres. Ta volonté, et nous avons la grâce de nous comporter, de nous diriger d'après cette volonté que tu nous révèles. Nous voulons suivre, nous voulons aller dans la direction que la pancarte nous montre pour atteindre le but. Bénis ton peuple sur toute la terre, partout où ils écoutent, où ils ont écouté. Bénis-nous ici aussi, nous qui sommes ici, rassemblés devant ta sainte face, dans ton nom, Bénis aussi tous ceux qui ne pouvaient pas être ici et qui voudraient bien être ici. Ô Dieu, bénis et accorde-nous à tous ta grâce, que nous puissions élever nos voix et te louer, car tu es digne de recevoir l'adoration, la louange et l'adoration, ô Dieu. Nous te remercions de ce que dans la foi, nous pouvons l'accepter, le recevoir, et que tu as accompli toutes choses pour nous, ô Dieu. Ainsi nous te demandons, Seigneur, accorde aussi nous ta grâce de marcher selon ta parfaite volonté, selon ton bon plaisir, pour l'honneur de ton nom. Encore une fois, nous te demandons, et je te demande, bénis tous, dans toutes les langues, tous les peuples, dans toutes les nations, dans toutes les villes et les pays. Nous te remercions de ce que tu as envoyé, Seigneur. La bénédiction, es-tu béni. Amen. Notre frère Joseph de Yaoundé, qui puisse aussi venir, nous voulons aussi remettre des salutations. Et nous voulons particulièrement aussi remercier le Seigneur, notre Dieu, pour les 12 frères qui traduisent simultanément. Dieu a pris soin de tout. Imaginez-vous, il y a 50 ans d'ici, et cela vous intéressera sûrement, nous avons en 1960 à Krefeld eu à planifier les réunions de frères Branham à Krefeld. Cela a été déjà annoncé à l'avance. À l'époque, dans le grand journal de l'Allemagne, nous avions voulu inviter frère Branham à Krefeld ici, en 1960. Nous avons frère Alfred Borg, frère Paul Schmidt et tout ça, nous avons rassemblé 5 000, nous avons loué le stade avec 12 000 stades et sièges et nous avons invité le frère Branham du 16 au 27 juin ici à Krefeld en 1960 et a eu lieu donc ce que personne n'a pu Satan, frère Branham n'avait pas le droit de quitter le pays et c'est peut-être qu'il n'a pas pu venir en 1960. C'est écrit ici, dans cette annonce, l'évangéliste Branham parlera seulement à Krefeld, sinon il ne pourra pas aller dans une autre ville en Allemagne. L'évangélisation aura lieu dans la salle de Rheinhall avec 12 000 sièges. Et éventuellement, des questions, vous pouvez vous adresser à Eval Frank, etc., etc. Ce qui m'a touché le cœur, ça devrait être cette réalité. Frère Branham ne pouvait pas venir à l'époque. Mais chaque prédication qu'il a tenue là-bas à Odessa, son ville, nous a été envoyé. Nous avons réellement trouvé une grande grâce auprès de Dieu. Je ne peux pas dire les choses autrement. Je dois le dire ainsi, de cette manière. Dieu, au-dessus de toute mesure, nous a fait grâce. Maintenant, nous avons des frères, aussi les frères de Krotno, qui appartenaient à l'époque à la Pologne et à l'Ukraine, qui appartenaient à l'Ukraine, ou bien à la Russie blanche. Oui. Que Dieu puisse bénir tous les frères. Avons-nous de la visite parmi nous qui...
Wir zum Frieden, 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 wir zum Frieden
Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, je te remercie pour ce jour. Je te remercie pour le message, pour ta parole, pour toutes les promesses et pour ce que tu fais dans le présent, en nous et aussi par ta grâce, par nous et fera encore. Nous nous tenons à ta disposition et nous te demandons de la provenance de notre cœur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans notre vie, dans l'Église, dans le royaume de Dieu, en Israël. Que ta volonté soit faite au Seigneur. Reçois ce qui te revient de plein droit. Et que tous les adversaires soient sous ton marchepied. Triomphe sur eux. Nous te remercions pour la victoire de Golgotha, pour la pleine rédemption par ton sang. Nous te remercions pour tout, pour ta parole et pour tout ce que tu fais dans le présent, sur la terre, dans l'Église épouse. Nous te remercions pour le ministère de Frère Branham, pour le message divin que tu nous as confié, avec lequel nous pouvons atteindre toutes les extrémités de la terre. Comme nos frères ont prié, que tous qui maintenant prêchent ta parole soient dans l'union de l'enseignement, dans l'unité de la foi, de l'enseignement, dans l'unité de tout, et marche ensemble, doit être rapporté à marcher ensemble, et que personne ne soit emporté par des vents de doctrine, mais que tout soit affermi, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Bien-aimé Seigneur, je te remercie de ce que tu as sauvé tous les perdus sous le coup de ta parole, et que tu as guéri tous les malades. Nous croyons le plein évangile. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, de tout notre cœur et de toute notre âme. Nous te demandons, sois avec nous encore dans ces derniers jours, dans cette année, encore dans les derniers jours de cette année. Conduis-nous au premier samedi et dimanche de la nouvelle année, janvier, à nous réunir. Nous avons été bénis dans ta présence ce week-end. Ta parole nous est devenue précieuse. Ô Dieu, loué et exalté es-tu, ô Seigneur, maintenant et dans toute l'éternité. Alléluia. Et que tout le peuple dise Alléluia. Que tout le peuple dise Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.